Bonsoir et bon début de semaine à tous. Dans un point de presse organisé vendredi dernier à Kinshasa, le Premier ministre Matata Mponyo juge positive l'action de son gouvernement. Au cours de l'année 2012, parmi les quelques grandes réalisations, Matata Mponyo cite notamment la consolidation du cadre macroéconomique et un taux de croissance élevé. Et aussi grâce à sa diplomatie agissante, ajoute-t-il, le gouvernement congolais a su mobiliser toute la communauté internationale qui a fini par reconnaître le M23 comme force négative. Comment analyser le bilan dressé par le Premier ministre? C'est le thème de notre dialogue entre Congolais de ce lundi 4 février 2013. Pour en parler, je reçois dans ce débat pour le débat Didier Molicho, député national et cadre du parti politique MSR. Il est secrétaire général de la majorité présidentielle. Monsieur Molicho, bonsoir.
Bonsoir.
Médard Moulangala Luakabwanga, député national honoraire et ancien rapporteur de la commission ECOFIN à l'Assemblée nationale. Il est président du parti politique UMR, un parti de l'opposition politique. Monsieur Luakabwanga, bonsoir.
Bonsoir madame. Je signale accessoirement que je suis aussi dans les facs opposition, chargé de la diplomatie et de la diaspora.
Merci pour cette précision. Et Michel Sommet, directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC. Monsieur Sommet, bonsoir.
Bonsoir madame, je voudrais dire que je me suis déjà retiré de mes fonctions d'administrateur délégué de la FENAPEC.
Et vous faites quoi maintenant?
Je suis chercheur.
Voilà, merci. Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Robert Kabandani de Bukavu, Sud-Kivu. C'est que le Premier ministre dit est vrai, mais je me demande pourquoi les prix des biens des premières nécessités ne diminuent pas dans nos marchés. C'est regrettable. Teddy Longue de Bukavu, Sud-Kivu. La croissance macroéconomique n'a pas amélioré le panier de la ménagère congolaise et la reconnaissance par la communauté internationale du M23 comme force négative n'a pas empêché au gouvernement de poursuivre les négociations avec cette même force négative à Kampala. Peut-on vraiment qualifier de positif ce bilan? Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez-les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'année 2012 aura été une année de quelques grandes réalisations par le gouvernement de la RDC. Les acquis de 2012 doivent être consolidés en 2013 en vue du bien-être du peuple congolais. C'est le Premier ministre Matata Mponyo qui l'a dit vendredi dernier lors d'un échange avec la presse quinoise. De la politique aux réformes dans l'amélioration des climats des affaires, en passant par la sécurité et la diplomatie, l'économie, le social et la culture, le bilan 2012 du Premier ministre a porté sur tous les volets de la vie nationale. Daniel Tambizoni pour les détails.
Grâce à sa diplomatie agissante, a relevé Matata Mponyo dans son bilan politique, sécuritaire et diplomatique, le gouvernement congolais a su mobiliser toute la communauté internationale qui a fini par reconnaître par les résolutions des Nations Unies, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne et la Belgique, l'agression de la RDC et a reconnu le M23 parmi les forces négatives. Les textes fixant les nomenclatures du pouvoir central ainsi que ceux des pouvoirs provinciaux dans le cadre de la décentralisation ont été élaborés et soumis au Parlement. La situation de l'Est a été assez mieux gérée, a dit le Premier ministre. La consolidation du cadre macroéconomique acquise en 2012 devra se poursuivre en 2013. Le meilleur taux d'inflation de moins de 3%, les réserves internationales qui représentent actuellement près de 10 semaines d'importation, le solde budgétaire 2012 positif de plus de 3 milliards de francs congolais, ajouté à cela les efforts pour maintenir la régularité de la paye des fonctionnaires de l'État et cela par voie bancaire, Matata Mponyo les considère comme un acquis social à consolider en 2013. Dans le compte des perspectives 2013, Matata Mponyo place le refinancement de la SOFIDE afin de renforcer la capacité d'absorption des crédits dans le secteur agricole. Des fonds seront mis la contribution, a-t-il dit, en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité à l'est du pays pour soutenir l'organisation des élections provinciales et locales. Le recensement de la population est aussi inscrit au programme 2013 du gouvernement congolais.
Merci Daniel pour tous ces détails. Médard Moulangala, je rappelle que vous êtes député national honoraire et ancien rapporteur de la commission ECOFIN à l'Assemblée de l'Assemblée nationale. Vous êtes président du parti politique UMR, un parti de l'opposition politique. Vous nous avez dit que vous faites partie des FAC, c'est une plateforme de l'opposition. Voilà. Alors comment vous analysez ce bilan dressé par le Premier ministre Matata Mponyo?
Écoutez, madame, je me suis demandé longtemps si le Premier ministre et nous-mêmes vivions dans le même pays. Vous savez, lorsqu'on nous lance avec fracas des performances économiques, il faut s'interroger sur ce qu'on entend par là.
Alors,
si
on va
c'est commencer par des chiffres.
Quoi. On va y aller point par point. On va commencer par l'aspect sécuritaire, honorable Moulangala. Le Premier ministre Matata Mponyo, dans son point de presse, qu'est-ce qu'il a dit déjà? Il a jugé positive l'action du gouvernement par rapport au fait que la diplomatie de la RDC a été agissante pour que la communauté internationale reconnaisse les M23 comme force négative.
Si vous le voyez, madame, c'est la MONUSCO qui, dans son rapport, a très clairement établi qu'il y avait des exactions menées sur le terrain. Chemin Vlatvac qui a fait des rapports pour démontrer ce qu'il y avait comme violation des droits humains sur le terrain. Ce sont l'ensemble des structures qui sont sur le terrain qui ont donné ces rapports-là. Et la communauté internationale, à travers la MONUSCO, n'a fait qu'entériner ce qui a été déjà vu par elle-même et contrôlé par elle-même.
Et vous voulez dire que le gouvernement n'a rien fait?
Je crois qu'il faut partir des faits. Les faits, c'est le rapport qui est sorti de la MONUSCO. C'est ce rapport qui a donné une certaine situation sur le terrain. Nous avons suivi les discours de nos délégués aux Nations Unies, notamment à la session plénière de septembre. On n'a pas entendu cette détermination à faire avancer les choses. Au contraire, on a semblé qu'on avait peur de citer ceux que tout le monde connaît comme étant les pays qui soutiennent la rébellion du M23. Donc, quelque part, je crois que les résultats sont là parce que la communauté internationale, quelque part, est fatiguée de cette crise dans l'est du pays. Depuis 15 ans, ce sont des rébellions à répétition. Et d'ailleurs, pour corroborer mes dires, le ministre Ivan Lewis, ministre du gouvernement britannique qui était venu ici, a dit très clairement pour lui que pour eux, on doit mettre fin à cette situation-là. Et il y a là, il faut le dire, une détermination de la communauté internationale s'appuyant sur des rapports crédibles de la MONUSCO, des rapports crédibles des structures de droits de l'homme qui sont sur le terrain. Donc je crois que là-dessus, c'est tout le monde qui était, je crois, fatigué. Il faut retourner une page, et la tournée signifie notamment changer les méthodes dans la région des Grands Lacs. Nous disons d'ailleurs par rapport à cela, on se dit satisfait de la diplomatie et on va se réunir dans le pays qui est supposé apporter le soutien à la rébellion. Et le facilitateur, le ministre de la Défense, dont l'armée serait alors impliquée. Mais de quoi parlons-nous ici?
Alors, le Premier ministre, oui, il a aussi dit que la question de l'Est a été assez mieux gérée par le gouvernement.
Mieux gérée, je n'en sais rien. Est-ce que nous avons repris Rutshuru? Est-ce que nous avons repris la situation sur le terrain? Est-ce que les militaires de Metron ont quitté le terrain? Est-ce que la population est en sécurité? Est-ce que les jeunes gens ne sont pas recherchés pour être enrôlés de force dans l'armée? Est-ce que les violences contre les femmes ont diminué? De quoi parlons-nous ici? Est-ce que l'exploitation illégale des ressources a diminué? De quoi sommes-nous en train de parler? Il y a eu 500 000 déplacés internes. Autant de réfugiés sont-ils rentrés chez eux? De quelle sécurité parle-t-on? Je dois bien le savoir.
Et donc pour vous, le bilan du gouvernement Matata est négatif sur le plan politique et sécuritaire?
Je dois dire qu'il a pris le pouvoir au mois d'avril, je crois, de l'année passée.
Avril 2012.
Un an après, il y a eu la rébellion qui est venue. Il y a maintenant une nouvelle situation inconfortable.
Il n'a pas encore fait une année.
Bientôt. Il y a une situation inconfortable dans le sud Kivu. On a subi ça depuis hier. Au Katanga, avant-hier, il y a eu mordant, il y a eu des conflits. Mais de quoi nous parle-t-on ici? De quelle sécurité nous parle-t-on? Le rapport du Human Rights sorti il y a 3 jours sur les droits de l'homme dit que 2012 était une année noire en RDC. Et les faits sont étalés noir sur blanc. Alors de quoi parlons-nous? Dans quel pays sommes-nous?
Et donc vous avez plus confiance au rapport des Human Rights Watch que de ce que le Premier ministre a dit?
Je pense que ce type de rapports d'habitude sont vérifiables, contrôlables, et ceux qui les font s'engagent à répondre de leurs actes. Et dans le passé, récent ou lointain, ces rapports ont permis de mettre à nu beaucoup d'abus qui ont été par la suite condamnés. Donc moi je pense que cette structure-là est crédible. Quand elle fait un rapport qui n'a pas été démenti, il faut supposer que l'enquête a été faite minutieusement. Et d'ailleurs, la MONUSCO a fait son rapport. Pourquoi dans un cas, on accepte les rapports quand ça nous intéresse nous, et dans l'autre cas on dit non. Moi mon problème est de dire que je n'ai pas le sentiment que le gouvernement vive sur la même planète que la moyenne des Congolais, parce que ce qu'il dit qui se passe, c'est ce que nous vivons, il y a un monde de différence.
Merci, Monsieur Médard Moulangala. Honorable Didier Molicho, je rappelle que vous êtes député national et cadre du parti politique MSR. Vous êtes secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Vous, quelle est votre analyse de ce bilan dressé par le Premier ministre?
Merci beaucoup, madame.
Bon, sur le plan sécuritaire et politique, bien sûr.
Bien sûr, merci beaucoup. J'ai suivi mon frère Luakabanga. Oui, c'est tout à fait normal qu'il analyse les résultats du gouvernement de ce point de vue-là. Mais moi, je pense que dans toute chose, il faut voir d'où nous venons et où nous allons. Le gouvernement a été mis en place au mois d'avril, comme il l'a rappelé lui-même. C'est au mois de mai que le gouvernement a été investi. Et à peine investi, le gouvernement a eu à faire face à ce qu'on appelait avant la rébellion, qui s'est transformée, bien sûr, avec les efforts diplomatiques, à ce que tout le monde accepte que c'était une agression venue de l'extérieur. Je pense que, de notre point de vue, nous pouvons dire que le gouvernement, à peine installé, a accompagné les efforts du président de la République, qui, par une diplomatie agissante, ça je peux l'affirmer, a fini par faire admettre, parce que c'est au niveau de l'Union africaine, toutes ces organisations qu'on cite, oui, ces organisations peuvent faire des rapports, mais ce ne sont pas ces organisations-là qui ont poussé à ce qu'on accepte que le M23 est une force négative. C'est à Addis Abeba, l'Union africaine, dans sa réunion, a reconnu que le M23 était une force négative.
Et si. ce n'est pas grâce au rapport des experts des Nations Unies ce groupe a été reconnu comme force.
Mais dans cette réunion de l'Union africaine, par qui participe? Ce ne sont pas ces organisations qui participent, c'est le gouvernement qui participe. Donc ça veut dire qu'il y a eu le représentant du gouvernement de la République démocratique du Congo qui a posé le problème, et ce problème la manière de poser le problème a amené les autres États à reconnaître que c'était une force négative.
Et le gouvernement a reconnu le problème après la sortie du rapport des experts.
Oui, mais est tout à fait normal que les experts fassent leur travail. Mais de l'autre côté, les gouvernements devaient faire son travail. C'est de convaincre les autres gouvernements à accepter la thèse qui est celle du gouvernement de dire que le M23 était une force négative. Et quand les autres gouvernements acceptent ça, c'est à mettre sur l'actif du gouvernement. C'est quand même un point positif pour le gouvernement.
Et par rapport à la gestion de la crise de l'Est?
Je pense que la gestion de la crise de l'Est, je crois que du point de vue du gouvernement, et ça c'est l'option qui avait déjà été prise par le président de la République, et l'approche pour régler la question de l'Est était à la fois politique, diplomatique et militaire. Sur le plan militaire, nous avons connu des déboires avec ce qui s'est passé à Goma, mais on n'a pas désarmé sur le plan politique et sur le plan diplomatique. Et je pense que c'est des efforts sur le plan diplomatique qui ont poussé le M23 à arrêter et à se retirer de Goma.
L'effort diplomatique du gouvernement congolais?
Oui, bien sûr, qui a accompagné les efforts du président de la République. Parce que vous vous souvenez très bien que c'est à la suite de la réunion qui a eu lieu à Kampala entre les trois chefs d'État que la décision avait été prise dans le cas du CIRGL pour demander au M23 de se retirer de Goma.
Mais ils occupent toujours certaines localités du Nord Kivu.
C'est vrai, ils occupent toujours certaines localités du Nord Kivu. Mais comme je viens de le dire tout à l'heure, que l'approche pour la résolution de ces problèmes est à la fois militaire, diplomatique et politique. Et les efforts sur le plan diplomatique se poursuivent. Et les efforts sur le plan diplomatique aussi, le président de la République a annoncé dans ce cadre-là la convocation très prochaine d'un débat sur la cohésion nationale. C'est tout ça qu'il faut mettre ensemble pour régler ce problème.
Et donc, apparemment, vous avez tendance à effacer ou à laisser de côté le plan militaire?
Oui, mais le plan militaire, vous savez, madame, c'est
Il ne faut pas trop compter sur notre armée.
Oui, mais l'armée, elle s'est construite et ça prend du temps pour construire une armée.
Combien d'années à peu près?
12 ans.
Oui.
Combien d'années, monsieur Molichaud, honorable Molichaud, selon vous?
Combien d'années? Je ne peux pas vous dire combien d'années, mais je vous dis que les efforts sont en train d'être fournis pour que notre armée soit réformée. La réforme de l'armée est en cours.
Merci, honorable Moulangala. S'il vous plaît, honorable Moulangala. Michel Sommouet, je rappelle que vous êtes chercheur. Quelle est votre analyse par rapport au bilan dressé par le Premier ministre Matata Mponyo, bilan qu'il juge positif?
Bon, ce que je dirais, en insistant peut-être un peu plus sur les aspects économiques.
On va en parler.
Ben oui. Je parlerai plus des aspects économiques que des aspects politiques, parce que sur le plan politique, je pense que modestie oblige, nous n'avons pas encore reçu des résultats par rapport à la crise de l'Est. Il faut dire que les démarches sont en cours, et je pense qu'il est précipité de pouvoir tirer le drap de son côté en disant qu'on a eu des performances ou des contre-performances. Il y a un petit statu quo, une sorte de répit, et donc tout peut arriver à tout moment. À ce moment-là, je pense que quand on fait un bilan, quand même pour des choses qui sont encore en cours, dont on ne connaît pas encore sincèrement les issues, je pense qu'il faut être modeste et reconnaître que la situation de l'Est ne peut pas encore faire partie du bilan positif ou négatif du Premier ministre. C'est ça mon point de vue sur le plan sur la situation de l'Est du pays. Mais maintenant, pour ce qui est du bilan économique...
Le Premier ministre parle de la consolidation du cadre macroéconomique et un taux de croissance élevé.
Je crois que la première erreur que le Premier ministre avait commise, je commence par parler des erreurs, c'est de s'être inscrit dans le plan de la continuité de son prédécesseur. Or, dire qu'il s'inscrivait dans la continuité, ça veut dire qu'il s'inscrivait dans la continuité des actions du Premier ministre Gizenga, qui s'inscrivait dans la continuité de ce que nous avions vu dans le schéma de 1 plus 4, qui était lui-même la continuité du PEG 1, la continuité du PIR, etc. Le PIR qui était la répétition du programme de rigueur de septembre 1983 de Léon Kengouadondo à l'époque de Mobutu. Ça veut dire que, comme on dit, les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Nous sommes là, justement, devant une situation des statistiques qui sont creuses, qui n'ont aucun contenu social, aucun contenu viablement économique. Ça fait un problème. Et j'aimerais dire que j'aurais souhaité sincèrement que le bilan sur le plan économique, que le bilan du Premier ministre soit un bilan faux. J'aurais souhaité qu'il soit faux plutôt qu'il soit vrai. Parce que s'il est vrai, parce que si ce bilan est vrai et que effectivement nous avons un taux de croissance moyen de 6,6% par an depuis 10 ans, cela revient à dire que en 10 ans, l'économie congolaise a connu un progrès de 66%. C'est-à-dire qu'il y a eu une richesse additionnelle de 66%. Si cela est vrai, parce que ça peut l'être, ça signifie que, étant donné que sur le plan de la vie matérielle des citoyens congolais, cela ne se sent pas, ça veut dire qu'il y a soit un énorme processus de détournement de la richesse nationale qui est opéré à un certain niveau, soit que notre croissance est effective mais elle nous a été extorquée par je ne sais quelle force, soit alors que il y a tout simplement un gâchis du point de vue de la gestion de la richesse nationale. Parce que faire quand même un taux de croissance moyen de 6% et demi par an, c'est énorme. Aujourd'hui, aucun pays occidental n'arrive à ce niveau-là. Quand on vous dit qu'il y a un pays occidental qui est en croissance aujourd'hui, c'est 0,3%, c'est maximum 1%, 2%. Mais nous sommes à 6,6% en moyenne, et plus que ça d'ailleurs, au 31 décembre 2012, nous l'avons clôturé à 7,2% de croissance, c'est énorme. Ça signifie que l'État ne devrait pas avoir des problèmes qu'il a aujourd'hui pour faire face à la guerre à l'est du pays. L'État ne devrait pas avoir des problèmes qu'il a aujourd'hui pour résoudre la question de l'énergie électrique qui est la condition de l'expansion économique, qui est la condition première de la création des richesses dans un pays. Parce qu'on ne peut pas avoir des usines, on ne peut pas avoir des industries qui tournent si nous avons en permanence des problèmes d'électricité, nous avons en permanence des problèmes d'approvisionnement en eau potable, nous avons en permanence des problèmes de vie au quotidien.
Et donc pour vous, vous estimez qu'il y a quelque chose qui ne va pas?
Moi, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il est souhaitable que le bilan du Premier ministre soit un bilan plutôt politique-économique, c'est-à-dire un bilan faux, quoi. Un langage plutôt politicien pour dire c'est positif, alors que ce n'est pas vrai. Parce que si cela est vrai, ça signifie qu'il y a un problème de gaspillage, un problème de détournement, ou un problème de mauvaise gestion, un problème d'incapacité de gestion d'une richesse créée. Parce que cette richesse, nous en avons besoin pour améliorer les conditions de vie des citoyens congolais, mais j'ai l'impression que la situation se dégrade. Je vais donner quelques exemples. Du point de vue, par exemple, de l'emploi, si nous avons effectivement une croissance, l'État lui-même aujourd'hui, qui a la préoccupation d'affirmer sa présence à travers toute l'étendue de la République, nous avons des problèmes. Le programme du gouvernement parle du renforcement de l'efficacité de l'État. L'efficacité de l'État dans un pays sous-équipé comme le nôtre, dans un pays qui accuse un énorme retard sur le plan technologique, devrait au moins se traduire par l'accroissement des effectifs de l'État, des fonctionnaires de l'État. Mais j'ai l'impression que cet accroissement lui-même, ces effectifs, les fonctionnaires de l'État sont en diminution permanente. Vous savez, dans les années 90, on avait dépassé le 1 million de fonctionnaires. Aujourd'hui, nous sommes à 800 000 fonctionnaires simplement, y compris l'effectif. 800 000. Pour un État qui a besoin d'occuper son territoire, n'est pas être capable, ne fût-ce que d'améliorer son niveau d'emploi lui-même, avoir un taux de chômage qui est le nôtre. Je voudrais dire un petit mot sur le chômage, madame. Vous savez, le chômage du Congo, ça veut dire que le Congo, à lui seul, regorge une population des chômeurs qui peut remplir 4, 5, 6 pays d'Afrique.
Merci, Michel Soumoué. Médard Moulangala, vous parlerez aussi d'un bilan faux, comme l'a dit Michel Soumoué, sur le plan économique.
Non, je dirais simplement comme lui la vérité. Il a parlé vrai, il a parlé avec son cœur, il a parlé avec son intelligence. Les chiffres que nous avons ne traduisent pas notre vécu quotidien. C'est ça qu'il est en train de dire. Les chiffres avancés ne montrent pas que nous mangeons mieux, nous sommes mieux logés, il y a de meilleures écoles, on ne le voit pas. Donc à partir de là, et il a raison de le dire, je l'appuie totalement, ce bilan-là, c'est pour la consommation des médias, c'est pour la consommation extérieure. Mais le Congolais moyen, moi, nous tous ici, nous les Congolais d'en bas, ne sentons pas cela. Donc, de ce point de vue-là, M. Soumoué a tout à fait raison. C'est de la propagande qui, aujourd'hui, en fait, frise le cynisme. Le cynisme.
Mais aujourd'hui, quand même, les fonctionnaires, ils touchent régulièrement son salaire.
La question qui est posée est la suivante. On nous a annoncé il y a 2 ans l'atteinte du point d'achèvement, que nous serions beaucoup mieux. On nous a balancé matin, midi, soir, les 5 chantiers, que nous serions beaucoup mieux. Demandez à Congolais moyens si 5 ans après, 6 ans après, sa vie a changé. Est-ce que 5 ans après, les services publics sont meilleurs? Est-ce que 5 ans après, il a accès à des besoins de base en termes sanitaires, en termes d'électricité, en termes d'eau? C'est ça la question qu'il faut poser. Donc, quand
donc,
on parle
que,
de
tant
chiffres...
Tant que le social du Congolais ne sera pas amélioré, on ne peut pas parler de croissance élevée ou de consolidation
la croissance,
de
la... C'est pour qui? C'est pour la population qu'on le fait. La croissance, c'est pour qui? C'est pour nos enfants, pour leur futur. C'est pour qui la croissance? Si à la fin de la journée, on affiche des chiffres mirobolants et que le Congolais moyen ne le sent pas dans sa vie quotidienne, de quoi parlons-nous? Et d'ailleurs, je crois même savoir qu'au discours du 31 décembre, on a évoqué cette question de croissance sans retombée sociale. Donc, nous sommes dans la même situation. Des chiffres mirobolants qu'on nous balance au jour le jour, mais en fin de journée, nous ne voyons pas dans notre vie quotidienne cette situation-là. C'est ça qui est dommage. Point d'achèvement atteint, pas d'impact. Donc, c'est ça la question. Des chiffres, oui. Mais les Congolais ne le sentent pas.
Mais on ne ressent pas l'impact sur les vécus des Congolais. On va prendre pour vous, honorable Moulangala, cette réaction qui nous vient de Kisangani, dans la province orientale.
Honorable Paulin Odiane, de la province orientale à Kisangani. Sur le plan macroéconomique et la stabilité de la monnaie, le bilan du Premier ministre est positif. Mais cette stabilité ne se concrétise pas néanmoins dans l'assiette du Congolais. Action prioritaire prévue n'ont toujours pas connu leur début d'exécution. Notamment de la route Nyanya-Isiro qui était choisie dans le programme des 100 jours du gouvernement Matata qui n'a pas été exécutée. La corruption, le détournement des deniers publics reste encore impuni jusqu'à ces jours. La révolution de la modernité ne peut se faire avec des gens qui ne font nullement la différence entre poche et trésor public. Sur le plan de la diplomatie, il faut encore du travail. Parce que nous avons des difficultés énormes pour connaître là où nous sommes avec le déploiement des forces à l'est de la République démocratique du Congo. Mais tout de même, nous encourageons le Premier ministre pour ce qu'il a déjà fait depuis qu'il est au pouvoir, notamment la bancarisation et certaines réalisations sur le terrain, notamment l'aéroport de Kindu et ainsi de suite.
Réaction honorable Moulangala, il y a quand même des choses qu'on peut apprécier du gouvernement Matata Mponyo.
Oui, juste entendu parler de la bancarisation, bon, c'est un minimum quand même. Les banques servent à quoi ici? Il faudrait que dans ce pays, on continue chaque fois à aller prendre l'argent.
Mais c'est quelque chose, puisqu'il n'y en avait
mais
pas
avant. C'est l'ABC, le BAB de la gestion, madame. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on peut pas faire? Si on ne parvient pas à dire qu'on doit organiser la paie des fonctionnaires, il y a un problème. Donc, au moins, je dois dire que là, l'ABC a été fait. Nous sommes dans l'ABC. Mais, madame, vous avez suivi comme moi l'intervention de notre collègue, notre frère, le Kisangani. Que dois-je ajouter? Je pense qu'aujourd'hui, le sondage qui est fait indirectement démontre pleinement que l'ensemble des Congolais sont mécontents de ce qui s'est passé, sont mécontents des résultats économiques parce que dans leur vie, ils ne vivent pas. Je préférais que vous laissiez la parole
Il va réagir, honorable.
C'est lui qui est là, qui doit nous dire pourquoi ça ne marche pas.
Il va réagir. Alors
pourquoi on ne parle d'armée, il n'y a pas de militaires qui sont bien formés. Il doit nous dire tout ça.
On va lui donner la parole.
Aucune sanction.
S'il vous plaît. On va lui donner la parole. L'honorable Dane a parlé des corruptions et des détournements. Est-ce que ça serait aussi à la base du fait que les Congolais, que c'est un groupe des Congolais qui se servent de l'argent du trésor public?
Bon, je dirais
au détriment de tout du petit peuple.
Je crois que la question qui est posée est plus large que la corruption. Elle parle de la justice d'une manière générale dans notre pays. Comment l'État est administré, comment le leadership la gère. Or, le constat qui a été fait par plus d'une personne, c'est qu'à ce niveau-là, il y a des sérieux problèmes. Et il n'y a pas d'injonction, d'impulsion donnée par le sommet, par le leadership congolais actuel, pour permettre de changer les choses. Donc, nous avons une difficulté réelle. Il y a eu autant de rapports faits à l'Assemblée sans aucune suite, mais on constate que lorsqu'il s'agit des opposants, on se précipite à lever l'immunité, à faire cela sur d'autres dossiers plus importants. Sur d'autres dossiers en termes financiers, on ne le sent pas. Et d'ailleurs, je suis rapporteur de la commission, on a fait un rapport en 2009 avec les abus qui ont été dénoncés jusqu'à ce jour où le rapport est enterré. Donc finalement, on a l'impression que le système ici couvre la corruption.
Honorable Moulicho, réaction.
Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est que tout le monde est d'accord à admettre, c'est que le Premier ministre, quand il parle des chiffres, il dit la stabilité de la monnaie. Tout le monde peut attester que la monnaie est stable.
Sauf moi.
Michel Sommet n'est pas d'accord. Il va nous dire pourquoi. Allez.
Oui, mais ça, on ne peut pas. Hein, parce que si vous posez la question aux vendeuses qui n'ont pas fait d'économie, parce que les drames de notre pays, c'est cet intellectualisme. La réalité, elle est là. Les gens ont leur monnaie qui a gardé sa valeur. Aujourd'hui, dans ces pays, on est en train d'assister à quelque chose qui n'existait pas avant. Les gens, le professeur d'université, le médecin qui demande un crédit pour un véhicule. On ne peut pas demander un crédit dans un pays où la monnaie n'est pas stable. C'est quand la monnaie est stable, malgré que son salaire n'est pas énorme, qu'on peut se permettre d'aller solliciter un crédit. C'est positif. On est dans un pays qui commence petit à petit à redevenir normal. Et je pense que on fait un mauvais procès d'intention au gouvernement. Le gouvernement n'a même pas fait une année. Ce gouvernement est en place depuis le mois de mai. Tout ce que le gouvernement a essayé de faire, c'est de mettre les bases. Et c'est de donner un état d'esprit. On ne peut pas dire le contraire. Matata est venu, il a essayé de donner un état d'esprit de travail. Comment on doit essayer de se comporter. Mais regardez au niveau même
parlez,
de la...
Vous parlez de la stabilisation de la monnaie ou de la consolidation du cadre macroéconomique, mais la population ne ressent pas ça.
Oui, mais madame, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, reconstruire, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais je pense que pour qu'on aille vers la reconstruction véritable, il faut vraiment poser les bonnes bases. Et je pense que ces gouvernements les méritent de poser les bonnes bases. Mais maintenant, c'est de garder les caps. Mais de garder les caps, c'est de garder avec tout le monde. Et ici, c'est pas seulement une action du gouvernement. Regardez la ville de Kinshasa. On a essayé de faire des travaux de réhabilitation des infrastructures. Mais regardez comment l'Equino est en train de détruire lui-même sa ville. Et vous n'allez quand même pas dire que il n'y a pas eu d'effort qui a été fait. Mais entretenir la ville.
Mais Kinshasa n'est pas toute la RDC.
Mais je parle des cas concrets. Parce que nous sommes à Kinshasa ici, on parle de cas concrets. Et même au niveau de la RDC, il y a des voies qui ont été réhabilitées. Mais entretenir une voie, moi je connais des voies de dessertes agricoles qui ont été réhabilitées à l'intérieur du pays. Mais entretenir le voie, ça, c'est un problème de civisme aussi. Je pense que le problème de ces pays, c'est que les gens ont perdu confiance en eux-mêmes. Et quand on a perdu confiance en soi-même, ça devient difficile.
Mais pourquoi,
et
moi, selon vous, les gens, ils ont perdu confiance en eux-mêmes?
Mais c'est pour cette raison que je dis, moi, je mets à l'actif de ces gouvernements ces déclics-là. Les gens commencent à croire que c'est possible de faire quelque chose. Vous vous imaginez la bancarisation. Mon frère Moulangala l'a dit, oui, c'est l'ABC. Oui, mais il fallait commencer par là. Mais il a commencé par là, il a essayé de commencer par là. Ça veut dire qu'il faut revenir aux éléments de base. Notre pays est un pays comme tous les autres. C'est tout à fait normal que les gens aillent chercher leur argent à la banque. Mais le fait d'y penser, c'est déjà quelque chose.
Alors on va prendre pour vous, honorable Molicho, cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Il y a ce qui dira de Goma, au Nord Kivu. Oui, il y a de timides avancées au regard d'énormes défis à relever par notre pays. Cependant, la corruption, le détournement, l'injustice sont autant de mots auxquels le gouvernement Matata devrait attaquer et qui malheureusement demeurent à tous les niveaux. L'amélioration du cadre macroéconomique n'est que sur papier et jamais dans le vécu quotidien des Congolais. Beaucoup reste donc à faire. Le Premier ministre a excédé dans l'autosatisfaction de l'action de son gouvernement. Certains ministres doivent être remerciés. Les audits du gouvernement effectués en province sont de toute complaisance.
Réaction honorable Molicho. Excès de l'autosatisfaction du Premier ministre.
Possible, mais je pense que ce qui est positif quand même avec le Premier ministre, c'est qu'il communique. Et les gens peuvent dire ce qu'ils disent aujourd'hui parce que le Premier ministre prend le courage de communiquer. Il dit ce qu'il est en train de faire, il communique sur ce qu'il est en train de faire et ça permet aux gens d'apprécier son action. Moi, tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que les bases sont en train d'être placées et que le résultat soit en place, ça prendra beaucoup plus de temps. Mais nous sommes sur la bonne voie, c'est tout ce que je peux dire.
Voilà, la SNEL et la Régie des eaux bénéficieront désormais d'une subvention de l'État qui permettra d'améliorer leur desserte en eau et en électricité à la population. Cette annonce a été faite par le Premier ministre toujours lors de son point de presse de vendredi dernier. La réaction du Syndicat national des travailleurs de la Régie des eaux ne s'est pas fait attendre. Le SINATREG salue la subvention, mais estime que le gouvernement devrait respecter les clauses du contrat de performance auquel la Régie des eaux est assujettie. Dans ce contrat, le gouvernement avait pris l'engagement de payer toutes les consommations des instances officielles, un engagement qui traîne à se concrétiser. Jean Bosco Mwaka, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de la Régie des eaux, le dit au téléphone de Daniel Tambinzouni.
Nous disons merci à son Excellence Monsieur le Premier ministre d'avoir annoncé cette bonne nouvelle d'accorder une subvention à la Régie des eaux de notre entreprise. Mais cependant, le Premier ministre doit comprendre que la Régie des eaux est déjà transformée en société commerciale.
Mais l'État reste le seul actionnaire pour l'instant.
Mais cependant, nous voulons rappeler à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que l'État congolais a soumis la Régie des eaux à un contrat de performance. Mais dans ce contrat, il est stipulé noir sur blanc que l'État congolais s'engage à payer toutes les factures de consommation des instances officielles.
Ce qui n'est pas encore fait jusque-là. Et c'est quoi la taille de ce que l'État doit à la Régie des eaux?
Pour toute l'année 2012, la Régie des eaux a facturé à l'État près de 25 millions de dollars. Mais l'État congolais n'avait payé que 1 million 900 000 dollars. Et au moment où je vous parle, nous n'avons bénéficié que 1,5 million.
Voilà, on va prendre, avant de réagir à ce son que nous venons de suivre, Michel Sommé, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mbujimayi au Kasaï Oriental.
Moi, c'est John, depuis Mbujimayi dans la province du Kasaï Oriental. Le redressement du cadre macroéconomique est une bonne chose. Mais nous, en tant que petit peuple, qu'est-ce que cela peut représenter pour nous? D'ailleurs, notre vécu quotidien est resté le même, malgré ce redressement du cadre macroéconomique. Et nous constatons même que nos conditions de vie s'empirent de plus en plus. Donc, en bref, nous pouvons dire que nous ne nous retrouvons pas dans tout ce qui s'est passé. Et nous pensons que les effets de cette croissance macroéconomique, nous ne les ressentons pas, nous les petits frères. Bref, nous ne nous retrouvons pas.
Brève réaction, Michel Sommé, puisque vous avez déjà commencé à parler de ça.
Oui, il y a deux façons de faire l'économie. Une façon, c'est de faire l'économie de beaux chiffres ou la culture de beaux chiffres. Une autre, c'est de s'engager sur la voie d'une économie du bien-être. Celle de beaux chiffres, c'est celle qui est bonne pour les politiciens. Celle du bien-être, c'est celle qui est bonne, à mon avis, pour des économistes sincères. Mais ça, je crois que je l'avais déjà dit. Nous sommes dans les statistiques. Je n'ai pas dit que le bilan du Premier ministre est nécessairement faux. J'ai dit qu'il peut être vrai. Mais si vraiment il est vrai, alors il y a un problème de gestion de la richesse nationale, comme le cas de l'intervenant qui a parlé de la corruption. J'ai parlé de la possibilité alors de détournement à grande échelle de la richesse nationale. Parce qu'on ne peut pas avoir un taux de croissance de 7,2% et ne pas sentir des changements. Mais là où je voulais particulièrement intervenir, madame, parce que je suis monétariste de formation et d'action. Je suis un ancien banquier central, comme le Premier ministre lui-même d'ailleurs.
Alors c'est par rapport à la stabilisation de la monnaie?
Naturellement, et même de la bancarisation. Je voudrais dire un petit mot. Tous ceux qui disent qu'on a stabilisé la valeur de notre monnaie, ils sont victimes de ce qu'on appelle en économie l'illusion monétaire. L'illusion monétaire signifie quoi? Signifie simplement qu'on s'attache à la valeur nominale de la monnaie, sans regarder son contenu, sa valeur intrinsèque. Aujourd'hui, dans ce pays, lorsque vous dites que un dollar américain égale 920 francs congolais, cela veut dire que si je renverse l'équation pour coter notre monnaie au certain, parce que coter notre monnaie, le dollar en monnaie en franc congolais, on appelle ça la cotation à l'incertain. Si je veux coter au certain, je dirais exactement ceci, que 1 franc congolais égale 0,0 dollar américain. Est-ce que vous avez compris? C'est correctement ça. C'est une simple question d'arithmétique. 1 franc congolais est égal à 0,00 dollar américain. C'est ça que nous avons stabilisé? Nous avons stabilisé le vent alors, nous avons stabilisé une monnaie vide de valeur. La preuve est que les crédits bancaires auxquels l'honorable Moulisso fait allusion, mais tous les crédits se donnent en dollars américains, madame. Tout le monde le sait, tous les crédits sont donnés en dollars américains. Combien d'entreprises reçoivent le crédit en francs congolais? Si le franc congolais était réellement une monnaie avec de la valeur stabilisée, les gens iraient facilement prendre des crédits en francs congolais, ça ne poserait aucun problème. J'ai l'impression que s'il y a encore quelques miettes de crédits en francs congolais, c'est pour seulement les femmes marchandes qui vont chez Finca ou qui vont chez eux, qui associent, qui font la campagne agricole. Ça, c'est un mot. Je voudrais dire un petit mot sur la bancarisation. Vraiment, avec toutes mes excuses.
Un petit mot, parce que nous tournons vers la fin de l'émission.
Un petit mot sur la bancarisation. Il ne faut pas qu'on oublie dans ce pays que là, nous avions la culture bancaire, mais qui a été déçue par le comportement de la Banque centrale en 1979. N'oubliez pas la démonisation de 1979 de la coupure de Dizaïre à l'époque, qui avait créé un scandale. Les gens n'étaient plus capables d'utiliser leur monnaie. Ils ont perdu beaucoup d'argent en banque. N'oubliez pas que la réforme monétaire de 1993 a fait beaucoup de victimes à la banque. N'oubliez pas que les années 90 ont été précédées par une période d'illiquidité monétaire liée au mauvais fonctionnement de la banque centrale qui a plongé le commerce dans l'illiquidité et les dépôts bancaires des individus se sont retrouvés gelés, bloqués, perdus jusqu'à zéro, jusqu'à tomber négatif. Donc les gens ont une mémoire de cela. Mais il me semble que on parle de la bancarisation comme d'un coup de baguette magique, comme une invention récente, alors qu'à mon avis j'ai même peur, très peur, parce que je constate que les conditions qui avaient poussé les Congolais à se méfier des banques parce qu'il y a une méfiance totale entre la population congolaise et les banques. Ces contrats n'ont pas été balayés. Le gouvernement s'est empressé de nous engager de nouveau dans les banques sans corriger le comportement des requins des banques. Ça, c'est un problème.
Merci, Michel Sommet. Honorable Moulangala, il nous reste moins de 5 minutes pour mettre fin à l'émission. Je vais vous demander d'être bref dans vos réponses. Par rapport aux perspectives 2013, le Premier ministre place le refinancement de la SOFIDE afin de renforcer la capacité d'absorption des crédits dans le secteur agricole. Il a parlé aussi de subventionner la SNEL et la Régie des eaux. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'abord, sur la SNEL et la Régie des eaux, je pense que le commentaire fait par le syndicaliste est tout à fait clair et précis. Des promesses ont été faites, rien n'a été réalisé. Encore une fois, là-dessus, on doit juger le gouvernement aux actes qu'il va poser. C'est une promesse, une de plus. Le budget 2012 a été exécuté de quelle manière, on ne le sait pas encore, mais lorsqu'on le verra, à ce moment-là, on pourra juger le gouvernement sous base de données effectives. Cela étant dit, moi je pense que pour 2013, je ne me fais aucune illusion.
Vous pensez que rien ne changera?
Je ne pense pas.
Ça sera le statu quo.
Je ne pense pas. Vous savez, la diplomatie reflète votre situation interne dans le pays. Tant que le pays est fracturé, tant que le pays est divisé, tant qu'on ne parvient pas à trouver une entente minimale sur la CENI, sur les élections, sur le gouvernement, on sera en très grande difficulté. Et d'ailleurs, prenons un cas tout simple aujourd'hui. L'Assemblée provinciale sont hors mandat. C'est une réalité. Légitimité amoindrie. La CENI, elle est contestée. Les églises ont dit pas ce format-là. Donc nous avons un grand problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avant d'aller plus loin, le dialogue s'impose entre Congolais pour apporter une solution. On a fait des promesses à 3 reprises. Devant le Congrès, le 31 décembre et récemment auprès des diplomates. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut? Si on veut le dialogue, qu'on le convoque. Si on ne veut pas, qu'on le dise. Mais je pense, à mon humble avis, qu'aujourd'hui, la solution passe d'abord par une cohésion politique élargie qui permettra dès lors de jeter les bases d'un vrai développement, d'une vraie diplomatie aussi.
Merci, honorable Moulangala, honorable Moulicho, 2013. Faut-il croire au changement, à quelque chose de positif qui sera ressenti au niveau de la population? Vécu quotidien de la population.
Enfin, moi, je crois que les bases, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bases ont été placées et je pense que progressivement, la situation va s'améliorer, certainement. Vous savez, quand moi, je regarde avec un...
Vous êtes sûr ou vous le dites parce que vous êtes de la majorité?
Non, le problème, madame, il faut vous dire une chose. Ce gouvernement a été mis en place au mois d'avril, commence à travailler au mois de mai. Et depuis qu'il est là, il est confronté à une situation de l'Est, avec la guerre à l'Est. Et une guerre, ça demande des ressources que le gouvernement devrait affecter à d'autres projets. Vous savez que ce gouvernement, malgré...
En guise de conclusion, on n'a plus beaucoup de temps.
Moi, je pense que 2013 sera mieux que 2012 et nous espérons que la paix va revenir au niveau de l'Est du pays parce que c'est un problème réel et auquel le gouvernement fait face.
Michel Somoyamo.
Écoutez, moi, je pense que le Premier ministre doit se calmer. Parce qu'il cherche à trop se justifier. En voulant trop se justifier, je crois qu'il commet des erreurs. Tout le monde peut comprendre qu'il a beaucoup de chances de faire le bon travail. Mais il ne faudrait pas qu'il tombe dans les pièges politiciens en voulant trop justifier son action. Merci. Jusqu'à dire des choses qui ne sont plus totalement de son ressort d'économiste et encore moins de démocrate.
Merci Michel Soumé, honorable Mlangala.
La voie de sortie, c'est le dialogue entre Congolais, un dialogue politique sur la légitimité, sur les conditions de relance du pays. C'est cette voie-là et celle-là seulement qui peut sauver les pays.
Merci, honorable Moulangala. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Mathé, Alain Hung, Samuel Kachak, sous la supervision de Pelé Kipelamondo qui nous ont aidé à préparer et réaliser cette émission. Merci à Mimi Kindou qui était à la technique. Au micro, Kéline Kouté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Rediffusion demain, 4h15, heure de Kinshasa. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.